Vous allez bien?
Oui.
Alors, je suis avec joie et un petit peu de nervosité, même si je suis à la maison, de venir vous apporter ce message. Une pensée toute simple que Dieu a mise sur mon cœur. Et ma pensée, c'est « il y a plus ». Il y a plus. Vous savez, l'homme, depuis tous les temps, a toujours cherché à avoir plus. Plus, c'est jamais assez, il nous semble. Je pense juste, et de vouloir plus, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement négatif, ça peut être très bien, parce qu'on a voulu découvrir plus, eh bien, on a été jusqu'à marcher sur la Lune, n'est-ce pas? On a découvert la Lune, on a touché la Lune, on a découvert tous les effets que la Lune pouvait avoir justement sur la planète Terre, mais maintenant, la Lune, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu désuet. Maintenant, c'est Mars, c'est Saturne, il y a des galaxies, il y a tellement de choses à découvrir. Et il y a un côté qui est bien lorsqu'on désire avoir plus, mais il y a un côté aussi qui peut peut-être être néfaste à la longue, parce que parfois, on peut être dans une quête vers des choses que nous voudrions plus, mais qui ne vont pas nécessairement peut-être remplir le vide qu'il peut y avoir au fond de nous. Et je pense à tout simplement des choses de base, telles que nos téléphones. On a la 3G, on veut passer à la 4G, maintenant c'est la 5G. On a le iPhone 11 et on se demande déjà comment va être le 12 et on va aller plus loin. Je regardais justement sur Internet et il y a des gens justement qui tapent, qui font des recherches. Comment avoir plus de vues sur mon Snapchat? Comment avoir plus d'amis sur mon Facebook? Comment peut-être, il y a d'autres choses aussi qu'on voudrait, comment faire plus d'argent plus rapidement? Comment perdre plus de poids le plus rapidement possible? Hein? Comment paraître plus jeune aussi? Comment être plus beau? Il y a tellement de plus, des quêtes de plus que nous avons. Et vous savez, l'homme n'a pas changé parce que dans le temps de Jésus, c'était un petit peu la même chose aussi. Jésus a fait face justement à un groupe de personnes qui, à un certain moment donné, se sont rapprochées de lui et ils sont venus et lui ont demandé, « Seigneur, donne-nous un signe. Fais un signe de plus. » Et vous savez, on retrouve cette requête-là dans Matthieu 12, le verset 38. Je vais le lire pour vous, Matthieu 12, 38. « Alors que quelques scribes et pharisiens... » Alors, c'est des scribes et des pharisiens qui viennent à Jésus. Et souvenez-vous de quelque chose, souvent les scribes et les pharisiens étaient présents lorsque Jésus a fait des miracles, des prodiges et des signes. Alors, c'est écrit « Alors que quelques scribes et pharisiens prirent la parole... » Ils dirent, « Maître, nous voudrions que tu nous fasses voir un signe. » Pourtant, lorsqu'on prend le contexte, le moment où ils ont posé cette question-là, Jésus avait fait déjà beaucoup de signes, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Parce que justement, j'ai regardé, eh bien, le démoniaque qui était aveugle et muet avait été délivré. Jésus avait ressuscité aussi la veuve, le fils de la veuve de Nain. Il avait guéri le serviteur du centenier. Ce sont des histoires qu'on connaît probablement, que certains d'entre vous connaissaient bien. Il avait aussi délivré plusieurs démoniaques, guéri plusieurs malades. Il y avait eu même la guérison de l'homme à la main sèche. Il y avait eu aussi la guérison du paralytique. Vous savez cette histoire où ils ont passé un homme par la toiture d'une maison et il y avait justement des religieux qui étaient présents dans cette maison. Il y avait eu la guérison d'un lépreux et d'autres malades. Mais là, il y a eu beaucoup de signes. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils se sont approchés de lui, parce qu'ils savaient, ils avaient entendu sa renommée, ils avaient probablement vu. Et là, ils viennent, mais ils en veulent plus. Un signe de plus. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble à la réponse que Jésus leur a donnée, parce qu'elle est bien surprenante, du moins, moi, elle m'a surpris. Suite à leur requête, voici ce que Jésus a répondu, toujours dans Matthieu 12. C'est une partie de sa réponse. Je n'ai pas pris toute la réponse, je veux juste vraiment qu'on puisse plonger nos regards vers une partie de sa réponse. Et voici ce que Jésus a répondu dans Matthieu 12, 42. « La reine du midi, c'est-à-dire la reine de Saba, se lèvera un jour du jugement, au jour du jugement, avec cette génération et elle la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. » Alors, le contexte ici, c'est quoi? C'est Jésus qui est entouré de pharisiens et de scribes qui leur demandent un signe de plus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il ne va pas faire un signe de plus, mais au contraire, sa réponse va probablement les surprendre et sa réponse va les ramener, Jésus va les renvoyer vers une histoire qu'ils connaissent très bien. Ils connaissent très bien le roi Salomon parce que ça a été le plus grand roi du peuple d'Israël avec une très grande renommée. Et ils connaissent aussi cette histoire, cet échange avec la reine de Saba. Alors, Jésus va les ramener à ça et je trouve que c'est extraordinaire parce que, vous savez, c'est une des plus belles histoires qu'on peut lire, qu'on peut voir dans la Bible en ce qui concerne un échange entre un roi et une reine. Et là, c'est spécial que Jésus, quand Jésus parle de quelque chose, ce n'est jamais pour rien. Il va utiliser un exemple et il y a un message derrière tout ça parce qu'il a une invitation aussi pour nous. Et je crois qu'il aimerait bien qu'on puisse vivre justement les échanges, et je dis bien les échanges. Je crois que la reine de Saba a eu plusieurs échanges avec Salomon. Pourquoi? Parce qu'on va, vous allez voir avec moi tout le périple qu'elle a parcouru pour être en présence du roi Salomon. Je ne pense pas que c'était juste pour prendre un petit café au coin d'une petite terrasse sur une rue à Jérusalem. Elle avait bien des questions. Elle a vécu tout un périple. Alors, on va regarder ensemble. C'est une magnifique analogie qu'on peut faire. Les entretiens, l'entretien qu'elle va avoir avec ce roi Salomon sont une analogie que nous sommes appelés à avoir avec Jésus. Vous me suivez? Alors, ce que je vais faire, j'aimerais juste tout simplement dresser un peu le tableau de cette histoire. On a deux personnages principaux dans cette histoire. Il y a la reine de Saba, n'est-ce pas? Et il y a le roi Salomon. Donc, cette reine de Saba, elle est quoi? Elle est mentionnée dans plusieurs écrits, que ce soit coranique, biblique, que ce soit hébraïque. Elle n'est pas une légende, elle a vraiment existé parce qu'il y a justement plusieurs fouilles archéologiques qui prouvent son existence. C'est la souveraine du royaume de Saba. Alors, le royaume de Saba s'étend du Yémen, c'est-à-dire le nord de l'Éthiopie, jusqu'à l'Érythrée. Elle est donc, c'est une femme qu'on dit qui était très belle, qui avait une intelligence aussi rare, qui était une souveraine bien avisée, d'un royaume bien prospère. Et c'est dit, la Bible nous dit qu'elle s'est rendue jusqu'à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon. Et elle a été accompagnée d'une très grande suite. Elle n'est pas arrivée toute seule. La Bible, dans Chronique 9:1, c'est écrit « Avec des chameaux portant des épices et beaucoup d'or et des pierres précieuses, jamais après n'arriva une telle abondance d'épices que celle qu'elle donna à Salomon. » Donc, ce que je veux regarder avec vous, c'est la description de ce fameux voyage qu'elle a fait. Je veux le décrire pourquoi? Parce que c'est ce qui a impressionné Jésus. C'est ce que Jésus a souligné. Jésus a dit, cette reine qui est venue du bout du monde, il a souligné tout l'effort qu'elle a pu faire pour rencontrer un roi dont elle avait juste entendu parler d'eux. Et elle a parcouru, vous saviez combien de kilomètres? Environ entre 3000 à 3500 kilomètres, dépendamment de la route qu'elle a prise. Et ce qui est touchant ici, c'est qu'elle a parcouru 3000 kilomètres, pas pour recevoir de l'or, ni pour découvrir de l'or pour enrichir son royaume, mais pour apporter de l'or, pour rencontrer un roi. Mais au roi, elle savait très bien qu'on ne se présente pas les mains vides devant un roi. Donc, elle va apporter de l'or. La Bible nous dit qu'elle va apporter 120 talents d'or. 120 talents, ça l'équivaut à 3600 kilos d'or. Donc, elle n'avait pas juste un petit pack-sac sur son dos. Hein? Et elle était chargée, la dame. Ça, c'est à part de tout le reste. Maintenant, quand j'ai regardé ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est tellement beau parce qu'elle n'est pas venue pour recevoir, mais elle est venue pour donner. Et je pensais à nous, je pensais dans les temps dans lesquels nous vivons, je pensais à notre génération, alors qu'on est souvent dans du plus, plus, plus. On veut plus de Jésus, on veut plus de ci, on chante des chants où, oui, plus Seigneur. Mais quelle est notre intention derrière? Est-ce que c'est plus de lui, de sa personne, de qui il est, ou simplement de ce qu'il peut faire pour moi? C'est quoi au juste? Dieu n'a rien contre qu'on vienne à lui et qu'on désire plus. Parfois, c'est vrai qu'on a besoin de son aide, qu'on a besoin de son soutien, mais il y a beaucoup plus, justement, pour nous, si seulement on pouvait le connaître davantage. Et j'ai bien aimé les chants qu'on a chantés. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, pourtant, ils ne savaient pas du tout mon sujet, mais les chants allaient bien avec cette pensée. Cette reine a parcouru, vous savez, Jésus... Ce qu'il veut le plus, je crois, c'est « intéresse-toi à moi ». Comme cette reine a fait tout ce parcours pour rencontrer le roi Salomon, elle s'est intéressée, elle était fascinée par qui il était, par ce qu'il possédait, par sa renommée. Toi aussi, je veux tout simplement t'inviter « intéresse-toi à moi ». Cette reine a parcouru à d'autres chameaux plus de 3000 km. Et selon quelques études qui ont été faites, parce qu'on a essayé d'analyser, il paraît que ça a pris 75 jours. Donc, 75 jours pour aller. Et pensez-y, après, elle doit retourner à la casa, la madame, dans son beau château, dans son royaume. Donc, ça a pris beaucoup de temps, n'est-ce pas? Elle a traversé des dangers, un voyage qui était aussi très long, fatigant. C'était, oui, confortable parce que la reine est sur un chameau qui est dans une cabine avec des tissus précieux. Donc, elle était probablement cachée du soleil, de la chaleur, mais ce n'était pas le TGV. Stable pendant 75 jours avec la clim à bord et les WC. Donc, vous pouvez vous imaginer. C'était aussi, la Bible nous dit qu'elle est venue avec tout un équipage. Elle devait traverser la lassitude du désert. C'est bien de découvrir le désert un jour, mais deux jours, trois jours, quatre jours, toujours y être, c'est plus long. Et sa suite, ce n'était pas que deux gardes du corps, parce qu'elle avait beaucoup de choses avec elle. Donc forcément, probablement qu'il y a une partie de son armée qui était avec elle pour la protéger, protéger les biens. Et elle avait des serviteurs. Donc parmi les serviteurs, il y avait des porteurs. Il y avait des cuisiniers parce qu'il fallait nourrir tout le monde pendant ces 75 jours. Il y avait probablement ceux qui allaient faire les courses, ceux qui annonçaient sa venue parce qu'elle a traversé plusieurs pays et il a fallu qu'elle passe par l'Égypte. Je ne sais pas si elle a peut-être eu des traducteurs. Elle était très intelligente, peut-être qu'elle parlait l'égyptien, mais est-ce que tout le monde de son staff faisait partie justement et parlait égyptien? Il fallait des traducteurs, il fallait une secrétaire, il fallait un comptable aussi. Il en fallait des gens. Elle ne pouvait pas passer inaperçue, dire « oui, je passe en Égypte ». Non, elle est arrivée avec je ne sais pas combien de dizaines de chameaux et de gens. Ça devait être très, très, très impressionnant. Et tout cela, elle l'a fait juste parce qu'elle avait entendu parler du roi Salomon, de sa sagesse et de sa richesse. Elle, il faut qu'elle en ait le cœur net, et la Bible nous dit même qu'elle voulait voir de ses propres yeux. Et elle l'a vécu. Et voilà pourquoi Jésus dit un jour, elle aura le droit de se présenter et de condamner cette génération qui demande un signe de plus de ma part, alors que moi, je suis beaucoup plus que Salomon. Moi qui se tiens devant vous. C'est ce que Jésus a dit aux gens religieux de son époque. Maintenant, le deuxième personnage, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon, eh bien, c'est le roi qui a été le plus riche de l'histoire d'Israël. C'est le roi aussi qui a eu une très grande renommée, qui était connu pour sa sagesse, parce que même des autres rois de d'autres pays venaient le consulter. Le roi Salomon, ici, c'est un type de Christ. Malgré ses imperfections, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs hommes de Dieu, qu'ils ne sont pas parfaits, mais malgré leur imperfection, ils sont un type de Christ. Par exemple, on prend son père, le roi David, qui représente Christ le conquérant avant, justement, la croix et à la croix. Et Salomon, lui, qu'est-ce qu'il représente en tant que Christ? Il représente Christ victorieux après la résurrection dans son règne. Donc, Salomon est un type de Christ malgré les imperfections qu'il a pu avoir dans sa vie. Et ce que j'aime voir, c'est que Salomon était très riche, c'était le plus riche. Mais ici, avec l'histoire de la reine de Saba, ce qui est beau, c'est que, vous savez, je crois que l'échange qu'ils ont eu, ce n'est qu'un exemple, qu'un échantillon de tous les échanges qu'ils pouvaient avoir avec d'autres rois, avec d'autres personnes d'une grande renommée, avec une grande notoriété de l'époque. Et voici ce que la Bible nous dit sur la richesse de Salomon. Je sais pas, avez-vous envie, on va regarder ensemble un petit peu à son compte bancaire. Vous voulez? On va regarder, c'est très intéressant. On est toujours impressionnés hein, par les gens qui ont beaucoup d'argent. Alors, 1 Roi 10, 14 à 29, le verset 14 à 29, nous donne justement la nomenclature du compte bancaire du roi Salomon. Je ne vais pas tous les lire, mais je vais vous en dire quelques-unes. Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était près de 20 tonnes. 20 tonnes, c'est quand même très bien. En plus, donc en surplus des 20 tonnes, de ce qu'il retirait des négociants et du trafic commercial, ainsi que tous les rois des Arabies et des gouverneurs du pays. Donc, Salomon avait beaucoup, beaucoup d'or. Il avait tellement d'or que la Bible nous dit qu'il couvrait tout en or. Je ne vais pas vous lire tous les versets, mais ça nous dit que ses boucliers, les assiettes, les coupes, son trône, des statues, la vaisselle, tout. Rien ne venait d'IKEA. Tout était vraiment fait en or, n'est-ce pas? Il est écrit ceci, « Tout Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or et tout la vaisselle de la maison de la forêt de Liban était en or pur. Rien n'était en argent. C'était trop bas. Il fallait de l'or, n'est-ce pas? Et c'est écrit, on n'en faisait aucun cas à l'époque de Salomon. L'or, c'était la norme. Si on veut le mettre à aujourd'hui, c'est comme le plastique pour nous. Le plastique, on en trouve partout. On a tous quelque chose à la maison qui est fait en plastique, n'est-ce pas? Juste sur cette estrade, il y a quelque chose en plastique. Pour nous, c'est la norme, c'est normal. Eh bien, à l'époque, c'était la norme. Il est écrit, le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Tout le monde cherchait à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Maintenant qu'on sait qui sont nos deux personnages, la richesse qu'ils ont, leur échange, on va regarder ensemble l'échange qu'ils vont avoir ensemble. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que Jésus fait une invitation. Il se tient devant les scribes et les pharisiens, et c'est la même invitation qu'il veut nous faire aujourd'hui aussi. C'est qu'il ose dire, il y a plus ici que Salomon. Donc, indirectement, il est en train de nous inviter à le comparer. Compare-moi à Salomon. Alors qu'on sait très bien que Jésus est incomparable. Alors qu'on sait très bien, il est le Fils de Dieu, il est Dieu fait chair, il est le Créateur de l'univers, mais il ose pour un certain moment quand même s'humilier et dire, « Tu t'attends beaucoup à Salomon? Ben, compare-moi à Salomon. » Alors je l'ai pris au mot et j'ai fait un petit tableau pour le comparer à Salomon. Pas dans tous les aspects, mais dans certains aspects. Voici ce qu'on peut découvrir par la Bible. Salomon, la Bible nous dit, il est le plus sage de tous les hommes, et sa sagesse vient du ciel. Eh bien, Christ, c'est la sagesse même de Dieu. Ce n'est pas qu'il a de la sagesse, c'est qu'il est la sagesse. Salomon fut un grand roi, je dis bien fut, alors que Christ est toujours roi, et il est le roi des rois. Amen. À n'importe quel temps, vous pouvez applaudir. Hein? Pas à moi, au Seigneur, bien sûr. Les gens, ce qui était bien avec Salomon, c'était qu'il était un roi qui était accessible. Mais Christ, encore mieux que Salomon, c'est Christ qui s'est rendu, qui est venu, qui a fait tout le chemin vers nous. Elle a dû se rendre au roi, mais lui, c'est lui qui est venu à nous. Les gens sont venus du bout du monde et Christ a traversé plus que le monde, mais le ciel et a quitté son royaume pour venir jusqu'à nous. Salomon n'a jamais quitté vraiment son royaume, alors que Christ, non seulement qu'il a quitté son royaume, mais il est venu pour nous faire entrer dans son royaume. Il est venu pour nous donner son royaume. À Salomon, on a posé des questions, il a pu répondre à toutes les questions, et Jésus, c'est la même chose, et même souvent, c'était pour le piéger, mais il réussissait à répondre. Salomon a été celui qui a bâti le temple. Mais Christ, encore plus que de bâtir un temple fait de pierre, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc de l'Esprit de Dieu. Et Jésus, ce qu'il fait depuis d'âge en âge jusqu'à aujourd'hui, il continue à bâtir. Il bâtit des vies, il rebâtit, il réconcilie, il fait des choses juste extraordinaires. Il restaure et il édifie. Et il réconcilie ce qui semble inconciliable à l'œil humain. Voilà ce que Jésus est. Et pour terminer, Salomon était le roi le plus riche de la terre, possédant de l'or juste en quantité inimaginable. Mais voici ce que le livre de Agé, le chapitre 2, verset 8, nous dit. « C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. » Donc, Christ est franchement beaucoup plus que Salomon, n'est-ce pas? Maintenant qu'on a bien dressé le tableau, j'aimerais qu'on puisse regarder à trois vérités pour nous aujourd'hui. Trois vérités. Vous savez, c'est important de s'arrêter. Si Jésus a parlé de cette histoire, de cet échange, s'il dit « Compare-moi à Salomon », eh bien, moi, je vais aller voir c'est quoi au juste qu'il y a eu dans cet échange, qu'est-ce qui a pris place, parce que ça veut dire qu'il y a des vérités pour moi. Alors, on regarde ensemble dans le premier roi, je ne sais pas si vous avez vos Bibles, un roi, le chapitre 10 et le verset 1. Un roi, chapitre 10, verset 1, 1 à 13. Je ne sais pas si ça va. Non, ça ne va pas apparaître. D'accord. Alors, je vous lis, soyez bien attentifs. Je vais sauter quelques versets parfois. Alors, voici. La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon pour le nom du Seigneur. Et elle vint le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très importante, des chameaux portant des épices, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle vint trouver Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Retenez ceci. Et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. D'autres versions disent sur le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Il n'y avait rien de caché que le roi ne pût lui expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, l'habitation des gens et de sa cour, la fonction de ses auxiliaires et leurs vêtements, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison du Seigneur. Elle en eut le souffle coupé. Et regardez bien, elle dit alors au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse. Je n'y croyais pas avant d'être venue et de l'avoir vue de mes propres yeux. Et on ne m'en avait pas dit la moitié. » Wow! Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. Heureux tes hommes, heureux tes gens, qui se tiennent en permanence à ton service et qui entendent ta sagesse. Et là, c'est dit qu'elle donna justement au roi les 120 talents d'or et tout ce qu'elle a apporté. Et ça termine comme ceci, leur échange. Le roi Salomon accorda à la reine de Saba tout ce qu'elle souhaita demander. Et il lui fit bien d'autres des présents, comme seul pouvait en faire un roi. Puis elle s'en retourna dans son pays, elle et les gens de sa cour. La première vérité ici qui ressort, du moins qui est ressortie pour moi et qui m'a beaucoup interpellée, c'est qu'elle lui dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle savait qu'avec Salomon, elle pouvait parler de tout. Elle pouvait lui poser toutes les questions. Il n'y avait pas de truc trop obscur, il n'y avait pas de sujet tabou, mais elle pouvait vraiment venir telle qu'elle était. Elle savait, je crois, qu'il a valu la peine de pouvoir justement parcourir un certain chemin long, pénible et difficile qui a demandé beaucoup d'organisation, de passer par des moments de désert parfois, de persévérer et de continuer. Il en a valu la peine. Et ce qui est beau ici, c'est qu'on a une invitation du ciel. Si Jésus a dit à ces gens, il y a plus que Salomon ici, c'est parce qu'il veut nous inviter à vivre cet échange qu'elle a pu avoir. Je ne sais pas si tu as des questions, mais moi j'en ai. Je ne sais pas si tu as besoin des réponses, moi oui. Mais la bonne nouvelle, c'est celle-ci, c'est qu'on a cette invitation de la part du ciel de pouvoir vivre exactement la même chose. Vous savez, Dieu, ce n'est pas une religion. Dieu, c'est une personne. Alors, c'est pour ça qu'on peut être en communion avec lui, tout simplement. Donc, moi, je veux juste vous encourager. Moi, souvent, je me le redis, Justine, ne cherche pas à faire une performance lorsque tu pries, lorsque tu t'approches de Dieu, mais sois un, sois vrai avec toi-même, parce que des fois, on n'est même pas vrai avec nous-mêmes. On se cache des choses à nous-mêmes. Sois vrai avec toi-même et tu pourras être vrai aussi avec Dieu dans le lieu secret quand tu t'approches de lui, quand tu viens pour lui parler. Jésus est plus que Salomon, alors... C'est pour ça que je pense que, comme cette reine-là, vous savez quoi? Ça vaut la peine. Je veux t'inviter à préparer ton voyage. Je veux t'inviter tout simplement à préparer tes rencontres avec lui et à te réserver des temps, des cœur à cœur avec lui, parce que c'est ce que Dieu veut. Vous savez, la thématique de cet automne, c'est passer aux actes. Et on passe aux actes avec les chaussures, les boîtes de chaussures. N'est-ce pas? On va tous arriver avec une boîte de chaussures la semaine prochaine, vous promettez? Il faut que je le mette dans mon agenda, mais il faut que je me trouve une boîte de chaussures. On veut passer aux actes, on veut aller vers les autres, et c'est très bien, mais je veux vous inviter premièrement à passer aux actes aussi envers Jésus. Parce que Jésus, vous savez quoi? Il veut cet échange et il a besoin d'entendre votre voix. Il veut cette communion avec vous. Et vous savez quoi? Plus vous allez pouvoir parler, prendre du temps avec Christ, plus il parlera à votre cœur et il parlera au travers de sa parole. Et vous savez ce qui prend place lorsqu'il nous parle? Ce n'est pas qu'il parle pour remplir le temps parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. C'est que lorsqu'il nous parle, il nous parle de choses précises et ça apporte une transformation. Ça apporte